Nous poursuivrons nos interviews de candidats à l'élection présidentielle. Il reste 5 jours avant le premier tour. Et c'est Nathalie Arthaud qui nous rejoindra. Vous avez le temps de traverser. Nous parlerons notamment avec elle de ce qu'on ne trouve pas dans son programme. Et puis nous aurons la joie d'accueillir une artiste sublime, la chanteuse Camille. Elle nous présentera son nouvel album à venir en juin. Oui, c'est son titre. Et elle nous offre déjà le titre Fontaine. Il y a un i tréma. Fontaine de lait. On écoute un extrait. Et voilà que je fais. Et ça va être magnifique, on a déjà toutes les percussions qui sont installées sur le plateau. On a écouté les répétitions et c'est formidable, du grand Camille. Camille est de retour et on est vraiment ravis qu'elle ait choisi. C'est à vous pour ce retour. Nous partons en cuisine retrouver Christian au micro de Mathieu. Bonsoir messieurs.
Bonsoir à tous. Christian en pleine forme ce soir.
Ouais, toi aussi,
Mathieu. Pour une pintade frégola. Qu'est-ce que c'est frégola?
Frégola, bah, écoute, ce sont des petites pâtes qui nous viennent de Sardaigne. Et ça, c'est une recette de mon ami Édouard de la place Saint-Marc. Et on va la servir.
C'est-à-dire?
Alors, c'est un petit gamin qui adore la cuisine et que j'ai rencontré à Venise là, il y a quelques jours.
Christian a un fan, c'est ça?
Ouais,
oui, c'est vous dire. Il a rencontré un fan à Venise et il tenait à le saluer.
Ah ouais, celui-là, je le garde, j'en ai qu'un. On va l'accompagner de petits pois, d'un petit peu de parmesan et d'oignons nouveaux. Voilà.
Comme il se doit.
Comme il se doit, oui, je suis parfait. Merci beaucoup, Christian et Mathieu. À tout à l'heure. Nous poursuivons donc nos interviews des candidats à la présidentielle. Et aujourd'hui, c'est une candidate, celle de Lutte ouvrière, qui vient nous voir. C'est sa deuxième candidature et son discours est bien rodé. On accueille Nathalie Arthaud. Bonsoir,
bonsoir.
Nathalie Arthaud.
Bonsoir.
D'abord, vous avez sans doute suivi aujourd'hui cette arrestation de deux hommes soupçonnés de fomenter un attentat imminent contre François Fillon et plus largement visant les candidats à la présidentielle. Est-ce que vous avez été informé, vous, d'une menace? Est-ce que votre sécurité a été renforcée?
Non, je n'ai pas été informée parce que je suppose que je ne faisais pas partie des
cibles,
je pense. Donc non, j'ai eu aucune information dans ce sens-là et... Bon, pour l'instant, je ne change rien.
Vous ne parlez pas de sécurité dans votre programme. Enfin, si, vous souhaitez mettre fin à l'état d'urgence, mais vous n'avez pas de mesures particulières pour combattre le terrorisme?
Si, c'est déjà d'arrêter les interventions impérialistes aux quatre coins du monde qui alimentent le terrorisme. Je pense que arrêter de mettre de l'huile sur le feu, c'est déjà une mesure assez positive. Voilà, donc.
Mais notre mode de vie, la laïcité, ce sont aussi des prétextes aux agressions terroristes, islamistes. Qu'est-ce qu'on fait?
Ah, ça, je ne sais pas, parce que regardez, toutes les attentats terroristes ne sont pas restés cantonnés à la France. Il y en a eu en Allemagne, il y en a eu une dernièrement donc en Suède, bon, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Donc je ne crois pas. Je crois que voilà, il y a effectivement cette force d'attraction de Daesh sur des jeunes et des moins jeunes qui sont complètement perdus, paumés, qui naviguent entre le banditisme et le fanatisme. Parfois, d'ailleurs, on a du mal à identifier dans quelle proportion, et que ça fait partie, je crois, du pourrissement de la société. Parce que moi, je crois que ce qui manque dans actuellement, c'est un idéal, un projet collectif qui permette, y compris aux jeunes, d'imaginer une nouvelle société qu'on pourrait construire, plus fraternelle, plus démocratique, avec moins d'inégalités.
Je le disais, c'est la deuxième fois que vous êtes candidate à la présidentielle. Et avant vous, Arlette Aguillé s'est présentée 6 fois depuis 1974. À chaque élection, on entend ça.
Travailleuses, travailleurs,
travailleuses et aux travailleurs, que nous soyons ouvriers, employés, techniciens, à tous les exploités, ouvriers, employés, techniciens, nous avons tous un point commun, celui d'être des travailleurs, et les autres amassent des fortunes sans rien apporter à la collectivité. Le patronat se sert du chômage comme d'une arme de guerre contre les travailleurs.
Pour vous, pour moi, c'est un père, un frère, une amie qui désespère.
Les candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée ont démontré
une politique en faveur de la bourgeoisie, une politique contre les travailleurs.
Leur appartenance et leur dévouement au monde bourgeois.
Moi, je ne me présente pas pour faire carrière, pour être président de la République.
Je ne suis pas candidate pour être présidente de la République, ça c'est sûr.
Alors, vous avez le mérite de la constance, mais
de la continuité. Voilà. Alors qu'il y a beaucoup de girouettes, hein, vous remarquerez, dans, en politique, et que, y compris sur une seule campagne électorale, souvent, on n'a pas la même position à l'arrivée que.
Voilà. Alors, vous, vous n'êtes pas menacé par ce risque-là.
Non.
Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont changé dans la société depuis 40 ans? Est-ce que vous pouvez me citer, par exemple, une chose nouvelle dans votre programme?
Moi, je pense que des travailleuses et des travailleurs, il y en a encore. Je pense que des ouvriers et des ouvrières, il y en a encore. Des techniciens, des salariés. Des... Voilà, aujourd'hui, on rebaptise beaucoup des travailleurs auto-entrepreneurs. Mmh. Hein, alors moi, ça me fait vraiment sourire parce qu'on parle d'ubérisation. Enfin, les mots sont nouveaux. Oui. Mais la réalité, c'est que voilà, on a toujours des livreurs de pizza. Alors, ils ne sont plus en scooter, ils sont en vélo. S'ils se cassent la figure, eh bien, ils ne sont même pas remboursés par la sécu parce qu'ils n'ont pas de contrat de travail. Voilà.
On parle de la fin du salariat avec l'ubérisation.
Que c'est le retour du travail à la tâche, comme au 19e siècle, en réalité, où on n'était pas indépendant d'un patron, mais où on vendait au jour le jour, presque à la demi-journée, ses bras. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas du progrès, tout ça. Vous voyez, quand on est manutentionnaire chez Amazon, il n'y a pas beaucoup de différence avec ceux qui sont manutentionnaires chez Carrefour ou chez Leclerc. Hein.
Sans parler
ils sont tous aussi mal payés.
De changement, en tout cas. C'est vrai que vous n'avez pas changé une ligne à votre programme depuis 40 ans.
Mais les inégalités, elles n'ont fait que s'accroître. Ce chômage de masse, est-ce qu'on a progressé? On s'enfonce. 1 million de plus sous Sarkozy, 1 million de plus sous Hollande. Et y compris, cette société est de plus en plus caricaturale. Parce qu'en fait, on voit que des grandes fortunes s'amassent à un pôle de façon... inouïe, extravagante, ça ne correspond plus à rien. Moi, quand je vois des fortunes augmenter de 6 milliards en un an, c'est la fortune de M. Arnault qui a augmenté de 6 milliards en un an, et puis que de l'autre côté, il y a effectivement 6 millions de chômeurs, que les augmentations de salaire pour ceux qui bossent dur, c'est 0%. Je me dis, on est vraiment dans une société caricaturale.
Alors, il y a quelque chose qui a quand même changé dans notre société, c'est la prise de conscience écologique. Vous ne proposez rien en matière d'écologie. Le réchauffement climatique, ça vous fait du chaud ni froid ou c'est
Non, mais ça nous préoccupe comme tout le monde. Vous savez, moi, je respire le même air. Je sens la poussière dans la région parisienne. Il n'y a pas de problème. Bien, si j'en parle,
mais sans proposer quoi que ce soit.
Parce que des discours. Des mots creux, des déclarations d'intention, c'est pas notre genre.
Non, mais il y a des moyens d'agir aujourd'hui sur notre environnement.
Moi, j'entends beaucoup de responsables politiques brasser du vent autour de l'écologie et avaler les couleuvres après. Il y a quand même une chose qu'on peut constater, c'est que ceux qui se sont engagés une fois au pouvoir, ils sont incapables d'empêcher les catastrophes qu'ils ont eux-mêmes annoncées, qu'ils avaient prévues. Et parce que ceux qui ont le dernier mot, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est le grand groupe capitaliste qui ont le dernier mot. Regardez ce qui s'est passé sur les boues rouges, sur le Dieselgate. Alors si, dans notre programme, j'en parle, et j'en parle sur le troisième objectif que je mets en avant, c'est la nécessité pour les salariés, pour les travailleurs, de faire la transparence, d'imposer la transparence sur les décisions et les comptabilités des entreprises. Parce que justement, moi je pense que les salariés sont aux premières loges, et s'ils voient effectivement leur entreprise polluer, déverser des produits toxiques dans une rivière ou dans l'atmosphère, eh bien ils devraient, mais ce n'est pas le cas.
Il y a
le secret des affaires.
Vous parlez du dieselgate, en revanche, le diesel, vous le gardez.
Mais moi, je suis bien sûr pour combattre le diesel. Je suis bien sûr, je pense que le diesel, ça a été, c'est le fruit de la complicité entre l'État et PSA qui avait fait effectivement sa fortune sur les moteurs diesel. C'est ça la réalité. Mais les interdictions, et en particulier des classes populaires d'utiliser leur voiture, qui est peut-être à bout de souffle, certes, mais qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils doivent utiliser pour se rendre au boulot, je trouve que c'est pas juste, voilà, et que c'est pas une bonne façon de s'y prendre. Donc, bien sûr, il faudrait aussi lutter. Mais vous savez, y compris, il y a une chose aussi qui nous caractérise sur cette question de l'écologie, c'est qu'on nous explique que le problème est individuel, c'est un problème de comportement de chacun d'entre nous, etc. Moi, je crois que c'est le problème de l'organisation sociale. Moi, je pense qu'on ne pourra pas résoudre le problème de l'avenir de la planète si on ne décide pas d'organiser réellement notre économie, de la planifier, d'éviter les gaspillages.
Vous ne croyez pas que chacun a une part de responsabilité? Vous ne triez pas vos déchets, par exemple?
Si, mais bien sûr, mais c'est
la responsabilité,
mais c'est infinitésimal sur ce qui se passe aujourd'hui.
Mais si tout le monde s'y met, si on apprend,
ce n'est pas vrai, c'est pas comme ça que l'on peut, c'est pas comme ça qu'on peut s'y prendre. On doit s'y prendre effectivement en contrôlant les grands groupes qui pèsent industriels et financiers, qui pèsent sur l'économie et qui décident d'orienter l'économie et les choix même d'investissement de la recherche en fonction de ce qui leur convient à eux pour leur business, pour leur profit et pour leur rentabilité. Et moi, ça, je le conteste. Si on veut que ce soit l'intérêt collectif, l'intérêt de la planète qui soit pris en compte, il faut absolument que ces gestions, elles soient collectives. Et donc, ça fait partie de nos aspirations.
Aucune proposition, finalement.
Eh bien, si, je vous ai dit. Ce contrôle des travailleurs est une proposition ultime. C'est celle de renverser le capitalisme et celle d'organiser l'économie de façon collective.
C'est
je ne vois pas d'autre façon d'organiser l'économie pour qu'elle soit harmonieuse, pour qu'elle se développe en fonction des intérêts de tous, si on ne la gère pas collectivement, si on laisse les conseils d'administration, tous ces grands groupes, aux mains de quelques-uns qui ne représentent que les intérêts d'une minorité possédante. Je ne vois pas. Ou alors, expliquez-moi. Mais tout ça, c'est soumis, voyez, aux lois du marché, aux aléas des volontés des investisseurs. Donc moi, je ne vois pas comment ça peut fonctionner.
Et le nucléaire aussi, vous êtes le dernier candidat d'extrême-gauche pas vouloir sortir du nucléaire.
Non, sur le nucléaire, moi je pense qu'il y a un préalable, ce serait encore une fois d'imposer la transparence complète. Moi je pense que cette filière, elle doit être mise sous le contrôle des salariés et de la population, et qu'elle doit être sortie du secteur marchand. Il ne doit pas y avoir une entreprise qui fasse de l'argent là-dessus. Et il doit y avoir donc la transparence complète, de façon à ce qu'on maîtrise les risques. Parce que bien sûr que le nucléaire, ça comporte des risques graves. Et dans l'état de la science, des risques qui sont irréversibles. Donc bien sûr qu'il y a des choses à faire. Et qu'on ne peut pas laisser d'ailleurs les entreprises gérer ce secteur comme si elle fabriquait des t-shirts ou des paires de chaussures. Donc moi, je suis contre, par exemple, la politique d'EDF qui consiste à sous-traiter en cascade, qui consiste à utiliser des intérimaires, parce que ça, c'est jouer avec le feu. Donc une fois qu'on aura effectivement pris ce contrôle et qu'on aura véritablement tout mis sur la table, oui, on sera peut-être en mesure de faire l'État.
Et du nucléaire, de l'environnement, de l'écologie et de tout ça.
En tout cas, on saura exactement ce qu'il en est des problèmes que pose telle source d'énergie, des avantages qu'elle comporte. On pourra le décider collectivement en tout état de cause.
Patrick, il y a trois candidats d'extrême gauche et il y a quelques nuances dans leur.
Vous voulez pas me dire le lancement que je vous ai donné?
Alors,
les trotskistes sont de retour, comme à chaque présidentielle française. Combien sont-ils sur les 11 candidats? 1, 2, 3, 4. Nathalie Arthaud revendiquait
5,
ce matin.
6, 7,
sur France Inter.
Écoutez, vous ne savez pas.
Vous revendiquiez ce matin sur France Inter comme une fierté d'être la seule vraie trotskiste de cette campagne et donc la seule communiste. C'est d'ailleurs le véritable nom de lutte ouvrière, l'Union communiste internationaliste, dont la figure emblématique historique vient de ressurgir pour quelques meetings et pour l'un de vos clips de campagne, on l'a vu tout à l'heure.
Vous qui aspirez à une société de justice, de fraternité, débarrassée de l'exploitation de l'homme par l'homme, dites-le en votant pour Nathalie Arthaud.
Arlette Laguiller, première femme candidate à la présidentielle et qui, après Alain Krivine en 69 pour la Ligue communiste, porte pour la première fois les idées du trotskisme, révolution permanente, dictature du prolétariat, internationalisme, mais qui doit cohabiter avec au moins deux autres courants trotskistes, la LCR, donc la Ligue communiste, issue de la 4e internationale, dont l'ancêtre de lutte ouvrière a claqué la porte pour des riches petites bourgeoises, et qui s'est fondue dans le NPA, aujourd'hui incarné par Philippe Poutou, et puis l'OCI, le mouvement le plus sectaire, le plus anti-communiste, le plus anti-PCF, disait anti-stalinien, et qui a présenté Bruxelles Lambert, son fondateur Gluckstein et Chivardi à la présidentielle, et qui a compté comme membres Lionel Jospin, Jean-Christophe Cambadélis et Jean-Luc Mélenchon. Ça fait trois. Et que dire de Jacques Cheminade, qui prône, lui, la guerre sans merci avec contre le système financier, les banques mondiales et les capitalismes. Il a un langage et des accents qui sont assez proches de ceux de l'extrême.
Et même, je dirais,
parfois.
Hollande, quand il a dit « mon ennemi, c'est la finance
». Alors, voilà. J'ai cité Danny Cohn-Bendit, qui a dit, à propos de Mélenchon, mais ça peut s'appliquer à d'autres, « trotskiste un jour, trotskiste toujours », pour vous demander, Nathalie Arthaud, est-ce qu'il reste un peu de trotskisme chez certains de vos concurrents?
Mais moi, je ne fais pas de procès d'intention. Et je dis, je ne m'érige pas en vrai trotskiste ou je ne sais trop quoi. Je les écoute, je les entends. Et je vois, voilà, j'entends Jean-Luc Mélenchon dire qu'il n'est pas d'extrême-gauche. Il n'est pas communiste, il n'a jamais été au Parti communiste. D'ailleurs, son idole, hein, c'est Mitterrand. Il veut mettre ses pas dans... François Mitterrand. J'ai entendu différents...
C'est un peu plus radical que celui de Mitterrand, non?
Mais vous... pas. Ah ben, sûrement pas.
Non?
Sûrement pas plus radical que celui de 1981, du programme commun, où François Mitterrand, bon, moi, j'y étais pas, mais j'ai quand même vu les...
J'y étais.
Voilà, certains y étaient et peuvent en témoigner.
Vous trouvez que le programme de Mitterrand de 81 est plus radical que celui de Jean-Luc Mélenchon?
Moi, j'ai gardé une phrase, quand même, de toute cette histoire. Hein. Mitterrand, 10 ans, et celui qui n'est pas prêt à la rupture avec le capitalisme n'a pas sa place.
C'était Épinay 71, bon, c'était 10 ans avant 80.
Mais c'est sur cette base-là qu'il a pris effectivement le Parti Socialiste et qui ensuite il a été intronisé comme le candidat unique de la gauche, y compris avec le Parti Communiste en soutien. Donc vous voyez, là-dessus, on a reculé aussi, vous voyez.
Donc c'est pour revenir à l'élection d'aujourd'hui, Nathalie Arthaud, Jean-Luc Mélenchon, c'est le nouveau PS?
Oui, bien sûr, oui, c'est la gauche gouvernementale et c'est les mêmes mécanismes, hein, réenchanter l'avenir, faire croire qu'il suffira de glisser son bulletin dans l'urne, hein, et puis il y aura le sauveur.
Un petit peu plus quand même, la 6e République, l'Assemblée constituante.
Oui, mais même là-dessus, moi je, voilà, dire qu'en changeant de constitution, on redonnerait du pouvoir au peuple sans l'enlever. Des mains des grands groupes de la grande bourgeoisie qui dominent, qui prend les décisions essentielles, qui pèsent sur la vie de centaines de milliers de travailleurs, qui décident de fermer des usines, qui décident de bloquer les salaires,
90% d'impôts au-dessus de 400 000 euros annuels.
Ce sont des mots en l'air. Voilà, ce sont des mots en l'air. Non, mais je veux dire, dire qu'on redonnera le pouvoir au peuple sans l'enlever de ceux qui imposent leur dictature aujourd'hui sur toute l'économie, ce sont des mots en l'air. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai pris l'exemple du groupe Lafarge, qui a traversé trois républiques, qui est prêt à faire son business dans tous les régimes, y compris les pires, hein, Daesh, bon...
Il n'est plus français en majorité, hein, vous le savez.
Oui, et alors, en tout cas, ça les juge, vous voyez, ces grands groupes, ça les juge, ils ont pas de morale, si ce n'est celle de leur portefeuille et de leurs dividendes, c'est ça la réalité. Donc moi, c'est cette réalité-là que je dénonce. Vous savez, tout à l'heure, j'étais avec les salariés de Whirlpool, les ouvriers de Whirlpool qui sont licenciés. Je peux vous dire qu'ils mesurent que leur vie, elle dépend l'un m'a dit, de toute façon, ça s'est décidé au Conseil d'administration aux États-Unis, qu'on règle de la carte l'usine d'Amiens. Donc voilà, ils mesurent que leur sort, leur vie, elle est bouleversée par des décisions prises, voilà, par un conseil d'administration à des milliers de kilomètres. Hein, ils ont été joués à la bourse, ils ont été joués au monopoly capitaliste. C'est ça la réalité. Et beaucoup le mesurent, les salariés de Vivarte, par exemple, aussi. Donc... moi, dans cette campagne, c'est ce que je veux signifier. C'est qu'au-delà de ceux qui nous expliquent qu'ils vont arriver à l'Élysée, qu'ils auront le pouvoir, etc., il y a ceux qui tirent les ficelles et qui dominent nos vies, y compris dans les choix donc, d'orientation de l'économie, dans les problèmes écologiques qui se posent à l'échelle de la planète. Et moi, je pense que cette classe capitaliste, elle est parasitaire, elle est anachronique, elle est irresponsable, et qu'il faudrait la renverser d'urgence et la remplacer par une gestion collective.
C'est difficile de vous arrêter. Justement, vous avez remplacé Arlette Laguiller, qui, elle, s'est présentée 6 fois à la présidence de la République. Anne-Sophie l'a rappelé, vous en êtes à votre 2e campagne. Est-ce que vous êtes donc, a priori, partie pour être candidate jusqu'en 2030? 37. Plus que 4 campagnes.
Moi, j'espère qu'il y a des choses qui bougeront bien avant, y compris avant 5 ans. J'espère qu'il y aura des réactions. J'espère qu'il y aura... Vous savez, on a l'impression que rien ne bouge, que rien ne change. Mais la colère et ce désarroi, le fait de laisser de plus en plus de femmes et d'hommes sur le carreau, il y aura des conséquences. Il va y avoir des réactions, sociales.
Des meilleurs scores en 2007.
Il y aura des explosions sociales. Oui, mais ça, c'est... Ouais. Vous savez, les scores électoraux
et
les luttes sociales, c'est absolument pas lié.
Corrélé.
C'est complètement indépendant. C'est complètement indépendant. Et quand est-ce qu'il y aura des réactions? Moi, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le prévoir. Mais je suis sûre qu'il y en aura. Et moi, je milite pour ça. Et je milite pour que ces réactions soient conscientes et qu'on sache effectivement quels objectifs mettre en avant et pourquoi se battre.
Lutte ouvrière a donc confié depuis 1974 la responsabilité de faire campagne pour l'Élysée à des femmes. Beaucoup ont été surpris par votre ressemblance physique avec Arlette Laguiller, même coupe de cheveux, même silhouette menue, et peut-être aussi même débit de mitraillette. Vous êtes difficile à couper, Nathalie Arthaud, regardez.
Le président de la République, et ils expliquent, ouh là là, c'est ce qui s'est passé sur Florange, hein, ceux qui dominent peut-être l'économie. Oui, parce que là,
du grand capital à la hauteur des progrès du 21e siècle.
Sur le chômage, ça dépend des luttes collectives. Donc, c'est industrie alors, à la souterraine dans la Creuse. Parce que justement, ils aggravent l'exploitation.
Alors, j'ai deux questions.
Il faut que les travailleurs se battent pour les richesses qu'ils produisent. Alors, on va être
Vous savez qu'on est tous des travailleurs.
Vous êtes candidate quand même à la présidentielle. Vous
non, mais je termine.
Voilà. C'est une technique qui s'est améliorée pour cette deuxième campagne là.
Ah bah oui, oui, bien sûr.
Ah oui,
bien sûr.
Ça travaille. Ah bah oui. Vous êtes
non, non, ça se travaille pas, mais bon, allez, il y a de la fougue, il y a de l'enthousiasme, il y a la volonté d'aller jusqu'au bout de ces raisonnements. C'est pas toujours facile, je vous assure.
Vous êtes professeur d'économie au lycée Le Corbusier Aubervilliers. Vous continuez à enseigner deux matinées par semaine pendant la campagne.
Alors là, cette semaine, je dois avouer,
mais jusque là, vous avez continué.
Oui. J'ai été absente, donc voilà.
Certains. Ah,
aujourd'hui, on est mardi.
Oui, c'est ça.
Aujourd'hui,
donc
même.
Pas hier, ça allait. Ils ont eu permanence, vos élèves.
Voilà,
la chef d'entreprise, Sophie de Menton, a lancé une pétition pour que vous ne puissiez plus enseigner. Vous lui répondez quoi?
Qu'elle
met en doute votre impartialité.
C'est un grand honneur qu'elle m'a fait. Hein, parce que, voilà, j'ai vu qu'elle était vraiment révoltée par les propos violents que je tenais. Elle a manifestement les licenciements, le fait qu'il y ait des gens qui se retrouvent sans rien, sans pouvoir payer leur crédit de la maison. Et ça, là, elle trouve que c'est pas de la violence. Donc... manifestement, si vous voulez, on représente deux mondes. Deux mondes qui s'opposent. C'est l'exact opposé. Donc, voilà.
Vos élèves votent pour vous, ceux qui sont en âge de voter, vous le savez ou pas? Vous les avez convaincus?
C'est un vrai test. Je ne suis pas sûre de les avoir tous convaincus.
J'ai essayé, en fait.
Pas vraiment. Non,
c'est pas très.
C'est pas un bon score.
J'espère quand même que bon, voilà, en tout cas, ils savent, ils connaissent ma sincérité et mon engagement, ça c'est sûr.
Alors, serez-vous toujours professeur en étant présente? Ça va être compliqué. C'est l'interview Moi Présidente.
Avec un petit jingle.
Moi Président de la République, je ferai en sorte que Moi Président de la République, il y aura Moi Président de la République, Moi Président de la République.
Donc, ce sont des questions courtes et des réponses théoriquement courtes, mais qui parlent de vous. Est-ce que vous habiterez à l'Élysée si vous êtes Présidente de la République?
Bon, alors je me prête au jeu. Hein.
Oui, merci.
On est d'accord.
Il faut imaginer.
Merci.
On fait un effort d'imagination. Ça veut dire qu'il y a des millions de gens dans la rue quand même, hein, depuis plusieurs semaines. On est d'accord, il y a toute une ambiance. Hein. Donc je continuerai d'habiter dans mon appartement de Seine-Saint-Denis. Voilà.
Mais vous ne professerez plus?
Oh, bah, peut-être que si, hein. Peut-être que si, parce que bon, peut-être non, que surtout, je serai pas la seule, hein, je serai pas la seule à prendre part à la direction de la société. Il y aura bien des choses collectives.
Lorsqu'il était arrivé, Nicolas Sarkozy avait augmenté son salaire, François Hollande l'a diminué. Que fera Nathalie Arthaud, présidente?
Ça c'est clair. Hein. Moi, ça j'ai toujours dit, c'est le salaire moyen qui est en cours dans la société. Voilà ce que devraient toucher les élus.
Où est-ce que vous fêterez?
C'est-à-dire 1800, entre 1800 et 1900 euros par mois.
Où est-ce que vous fêterez votre victoire?
Alors, la victoire de mes idées, sans doute dans la rue, sans doute dans la rue.
Est-ce que vous renonceriez à votre immunité présidentielle?
Mais moi, je suis contre les immunités. Je trouve pas ça juste, pas ça normal. Voilà, il faut que ceux qui sont élus rendent des comptes. Voilà, ça me paraît tellement naturel et évident, et y compris qu'ils rendent des comptes sur leurs engagements. Hein. C'est-à-dire que moi, je pense que s'ils ne remplissent pas leurs engagements, s'ils renient leurs promesses, eh bien, ils doivent être révoqués.
Vous gardez la Marseillaise comme hymne national?
Sûrement pas, non.
Vous avez déjà une musique en tête?
Bah, évidemment, voilà. Bien sûr. Bien
merci.
Sûr.
Jingle.
Moi, président de la République, je ferai en sorte que moi, président de la République, il y aura moi, président de la République, moi, président de la République.
Merci Nathalie Arthaud, vous restez avec nous pour le 5 sur 5 de Maxime Switek. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est pas encore le 5 sur 5 de Maxime Switek, mais vous restez quand même avec nous. Juste avant, on passe par le plateau de Michel Simès pour Enquête de santé, parce que c'est ce soir. Bonsoir Michel.
Bonsoir, j'ai eu peur, j'ai cru que vous m'aviez oublié.
Pardon, comment pourrais-je? Ce soir, en plus, vous allez nous parler des intestins, c'est ça?
Oui, un sujet qui doit vous intéresser, comme tout le monde d'ailleurs. Pendant très longtemps, on a pensé que c'était un tube par lequel passaient les aliments, et puis basta, ça nous permettait de nous alimenter, c'est tout. Et en fait, on apprend beaucoup de choses sur l'intestin. Par exemple, il y a 200 millions de neurones dans notre intestin. C'est pour ça qu'on l'appelle le deuxième cerveau. Il serait d'ailleurs en contact, l'intestin, avec le cerveau. On se demande même s'il ne serait pas à l'origine de certaines maladies, de maladies de Parkinson notamment, et de bien d'autres maladies, parce qu'il y a des neurones et il y a aussi 100 000 milliards de bactéries. C'est un véritable organe aussi, ces bactéries. On parlera de ça dans Enquête de santé ce soir. Et comme d'habitude, un très très beau documentaire. Vous apprendrez plein de choses, suivi d'un débat.
Merci beaucoup Michel. Ça valait la peine de faire un petit détour par le plateau de l'Enquête de santé. Merci beaucoup. Cette fois, on retrouve vraiment Maxime Switek pour le 5 sur 5.
Bonsoir Anne-Sophie, bonsoir Nathalie Arthaud, bonsoir.
Bonsoir Maxime. Le 5 sur 5 avec, pour commencer ce soir, deux arrestations.
Oui, deux arrestations ce matin à Marseille. Deux hommes, 23, 29 ans, sur le point de commettre un attentat d'après les autorités. Plusieurs armes retrouvées lors des perquisitions, du matériel pouvant permettre de confectionner des explosifs également. Et ces deux hommes étaient recherchés très activement depuis une dizaine, une quinzaine de jours. La crainte des services de renseignement, c'est qu'ils s'en prennent un candidat à la présidentielle ou qu'il passe à l'acte lors d'un meeting.
À quelques jours maintenant d'une échéance électorale majeure pour notre pays, je veux rappeler que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de ce rendez-vous majeur pour notre démocratie et pour notre République. Les services du ministère de l'Intérieur sont totalement et plus que jamais mobilisés partout en France pour assurer la sécurité des Français, pour assurer le bon déroulé de la campagne présidentielle, pour assurer la sécurité des meetings et des rassemblements, pour assurer la sécurité des candidats et de leurs quartiers généraux de campagne.
Et dès la semaine dernière, les photos de ces deux suspects ont d'ailleurs été transmises aux équipes chargées de la sécurité de certains candidats. Ce que l'on sait, c'est par exemple que la sécurité autour des meetings de François Fillon a été considérablement renforcée dès jeudi dernier. Même vigilance accrue apparemment pour les meetings d'Emmanuel Macron. Les deux hommes d'ailleurs ont réagi cet après-midi.
Ce qui me concerne, ça ne change strictement rien à l'organisation de ma campagne. Et surtout, ça ne doit pas conduire à focaliser le débat de la campagne sur des questions de sécurité et surtout sur la mienne. Ce que je veux, c'est continuer à dérouler mon programme.
Cela montre et cela nous rappelle que nous sommes toujours sous une menace très forte terroriste et que nos ennemis ont décidé, évidemment, de perturber le jeu démocratique.
Emmanuel Macron, François Fillon, qui ont reçu tout à l'heure un SMS de la part de Jean-Luc Mélenchon. Émotion et complète solidarité personnelle, que notre campagne et notre opposition républicaine soient la démonstration de l'échec du projet des violences. Ça, c'est par exemple ce qu'a envoyé Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron. Vous pourriez aussi, Nathalie Arthaud, leur envoyer un SMS de soutien comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon.
Bah écoutez, est-ce qu'ils sont visés directement? Je ne sais pas. Enfin, moi, je n'ai pas bien compris. Écoutez, ils sont bien protégés. Hein, voilà, je ne crois pas qu'ils attendent de moi.
Non, mais on peut exprimer une solidarité entre candidats. On peut se serrer la main, on peut se parler quand il y en a qui a été mis en danger.
Une solidarité avec Macron, Fillon, non, c'est pas trop mon truc.
Même sur une menace terroriste?
Ah, bah, sur une menace terroriste, bon. D'accord, mais enfin, bon, on va pas...
Ça vous laisse froide?
Tout ça m'interroge. Hein. Bon, je découvre ça cet après-midi. J'étais effectivement pas du tout... Je connaissais pas la situation. Bon, voilà.
Ça n'a pas l'air d'être fantaisiste. Hein. On a arrêté deux personnes qui étaient fichées, qui étaient recherchées depuis quelques...
Apparemment.
Qu'est-ce que ça veut dire, apparemment?
J'ai rien à rajouter.
Dans le 5 sur 5 de ce soir, double ration de meeting, c'est normal. Nous sommes à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen au Zénith, Emmanuel Macron à Bercy.
Oui, encore, ouais, pour ma femme. Ouais. Oh, ouais, c'est bien.
C'était hier à Paris, premier rendez-vous à l'agenda, le meeting d'Emmanuel Macron à Bercy, avec en préambule une marche d'une centaine de ses militants depuis la Bastille vers Bercy. Donc, épreuve que le premier tour se rapproche, la guerre des affiches est déclarée.
Depuis une semaine, c'est la guerre de l'affichage. Ouais. C'est assez drôle.
C'est pas Marine Le Pen, votre principale concurrente?
Nous, franchement... ils votent pour elle, mais il n'y a pas de militants, on ne les voit pas, ils ne sont pas actifs.
Pourquoi est-ce que vous arrachez les affiches de Jean-Luc Mélenchon ?
Les Mélenchon, ils sont très... ils arrachent toutes nos affiches.
C'est devenu votre adversaire principal, Jean-Luc Mélenchon ?
Personnellement, non. Mais je pense que c'est plus Le Pen. Hein.
Oh, arracher les affiches des autres candidats, c'est quand même de bonne guerre. Ambiance plus lourde à quelques minutes du début du meeting de Marine Le Pen. Des anti-FN sont venus, affrontement avec la police. Gilbert Collard qui arrive au Zénith, ciblé par des jets de projectiles. Ambiance plus lourde, mais même question posée aux deux camps. Vous allez voir, la différence est assez saisissante dans les réponses. Êtes-vous serein avant le premier tour ?
Vous êtes serein pour le premier tour ?
Je ne suis jamais serein par rapport à une élection politique. On voit qu'aujourd'hui, les élections se jouent sur le fil.
J'avoue que j'étais assez optimiste il y a 15 jours. Je deviens un peu inquiet aujourd'hui.
Non, je ne suis pas serein là. L'incertitude est totale et bon, ça commence à me gagner.
Pas serein, c'est mal qu'on puisse dire.
J'ai peur qu'on retrouve extrême gauche et extrême droite.
Vous êtes serein ?
Ouais, serein, on espère.
Je suis très sereine, mais je suis sûre qu'elle va réussir au premier tour.
Serein, super serein. Je pense qu'on peut, atteindre les 35% au premier tour et c'est ce qu'il faut.
Vous êtes serein, par exemple ?
Ah, tout à fait. Tout à fait, comme toujours.
Et on va dire que les militants d'Emmanuel Macron sont beaucoup plus prudents. Il y a une autre différence de taille entre les militants des deux camps. Elles sautent aux yeux quand vous leur demandez ce qu'ils retiennent du programme de leur candidat.
Ce qui ressort le plus ? Je ne sais pas du tout.
L'unification des régimes de retraite.
La taxe d'habitation réduite.
Une transformation des institutions. Le fait que la parole est davantage aux citoyens.
Son application dans le projet européen.
Pour moi, c'est l'éducation.
Le renouveau démocratique.
La mesure phare de Marine Le Pen, rendre la France aux Français.
Eh bien, rendre la France aux Français, déjà.
Donner la France aux Français.
La capacité qu'aura Marine à redonner le boulot aux Français, oui.
Et le patriotisme.
La France aux Français chez Marine Le Pen, c'est beaucoup plus varié dans les attentes chez, côté Macron. Emmanuel Macron, justement, petit coup d'œil en tribune avant le début du discours. Nos reporters Camille Ballon et Tancrède Bonora ont repéré pêle-mêle parmi ses soutiens à Bercy Catherine Lara, François Bayrou, Daniel Evenoux, Gérard Collomb, le maire de Lyon, Line Renaud, Robert Rue, Philippe Douste-Blazy. Et j'arrête là, on passe au discours.
Est-ce que vous sentez la puissance de ce rassemblement dimanche? Nous allons gagner et ce sera le début d'une nouvelle France.
Comme vous, je crois dans la France. Je l'aime. Nous allons rendre la France à son optimisme, à sa foi dans l'avenir. Ce que nous voulons, c'est une France unie, nouvelle, déterminée, résolue, efficace et juste. La France a rendez-vous avec ce qu'elle a de meilleur en elle.
Emmanuel Macron tente de jouer les rassembleurs. Marine Le Pen, elle va monter sur scène. Mais avant, évidemment, on en a pris l'habitude. Son chauffeur de salle, le comédien et candidat aux législatives, Franck de la Personne.
Pillon, grenouille de bénitier. Oh, tu piques l'argent des Français, tu le planques dans le sac de ta femme. Oui, mais attention, toi, tu as un cabinet noir. Oh, mais c'est même pas vrai. Parce que nous, on est les gentils batraciens. En oui partout, je vais, il pleut.
Je crois que la salle est prête, on va dire ça comme ça. Marine Le Pen peut entrer en scène. Oui, Marine Le Pen, le grand show de Marine Le Pen au Zénith. Le discours de la candidate du FN peut commencer. Une cible dès les premières minutes, l'immigration.
Ma première mesure comme présidente de la République sera de remettre des frontières à la France. Pour beaucoup de Français, l'immigration massive est une oppression. L'immigration massive n'est pas une chance pour la France. C'est un drame pour la France. Moi, présidente, le rétablissement des frontières sera mis en place dès le lendemain de ma prise de fonction. Je déciderai d'un moratoire immédiat sur toute l'immigration légale pour arrêter ce délire, cette situation incontrôlée qui nous entraîne vers le fond.
Un moratoire sur l'immigration légale, comment vous réagissez, Nathalie Arthaud ?
Je trouve ça insupportable, tous ces discours. Voilà. Moi, je le dénonce. L'immigration a participé à la construction du pays et continue. Ce sont des travailleurs, ce sont des ouvriers qui font les boulots les plus durs. C'est ça, la réalité. Et la classe ouvrière, elle est internationale par nature. Donc, quand Le Pen profère ce genre de propos, eh bien, elle affaiblit évidemment le monde du travail. Elle divise, elle cherche à dresser les uns contre les autres. Voilà. C'est la guerre des pauvres. Voilà, elle prêche la guerre des pauvres. Marine Le Pen.
Marine Le Pen qui revient aux fondamentaux du FN. Marine Le Pen, dont le discours a été interrompu hier soir deux fois par des femmes.
Manifestement, il y en a qui ont du mal à entendre la vérité. Elle aurait dû rester un peu, elle aurait appris quelque chose.
Les femmes sont évacuées sous les yeux de nos journalistes Arthur Charron et Stéphane Chatour, évacués par le service d'ordre du Front National. Retour à Bercy pour Emmanuel Macron, avec un slogan, mais alors très curieux, qui monte dans les tribunes. En même temps, nouveau slogan, c'est curieux, en même temps c'est en fait un tic de langage d'Emmanuel Macron. Il le répète toutes les trois phrases et visiblement hier soir, bah, il a replongé.
Il faudra en même temps, parce que en même temps, vous avez dû le noter, j'ai dit en même temps. Il paraît, mes amis, que c'est un tic de langage. Ça signifie simplement que l'on prend en compte des impératifs qui paraissaient opposés, mais dont la conciliation est indispensable au bon fonctionnement d'une société.
Il peut y avoir une signification politique dans un tic de langage. Vous avez un tic de langage, Nathalie Arthaud ?
Plusieurs.
On m'a signalé « voilà ». Il paraît que vous mettez beaucoup de « voilà » dans vos discours. Il y a celui-là, visiblement.
Effectivement.
Fin du meeting, et forcément, on a eu envie d'avoir un petit mot de deux supportrices d'Emmanuel Macron. Catherine Lara, Daniel Evenou.
Comment est-ce que vous l'avez trouvé, Emmanuel Macron ?
Moi, j'aime beaucoup cet homme, parce que je lui trouve une immense qualité, qui est la bienveillance.
Là. J'en ai pris plein la gueule. Il est inouï. Il vient d'une autre planète. C'est un vrai petit prince, mais un grand bonhomme. Je crois que c'est pas en marche. Là, c'est en courant. Faut se dépêcher. J'ai beau arrêter de le dire, faut y aller. Je suis fière, moi, d'être dans ce mouvement. Alors, courage. On a envie de lui dire, Emmanuel, on vous aime.
Elles sont convaincues de chez convaincues. Fin du meeting aussi chez Marine Le Pen. Mais vous allez voir, il manquait quelqu'un sur la photo finale. Une femme que Gilbert Collard se charge de ramener pile au centre de la scène. Scène surprise par nos reporters, Marion Maréchal Le Pen, au beau milieu de la scène, elle que certains trouvent, discrète dans la campagne, petite gêne effectivement. J'ai une autre image à vous montrer, une rencontre un peu étrange, faite à la fin du meeting de Marine Le Pen. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez.
Vous êtes dans quel état d'esprit d'ailleurs, à quelques jours du premier tour, est-ce que vous êtes serein ?
Mon opinion, il faut être optimiste aujourd'hui. C'est dans mon fond intérieur, je me doute qui est-ce qui va être élu. Moi, je pense à Macron.
Vous pensez que Macron va être élu ?
Oui, mais je n'ai pas le droit de le dire. Je vais le faire virer. Mais comme intervieweur, vous êtes pas mal, comme mec. Non, mais c'est vrai, vous avez une diplomatie et une certaine élégance, même. Vous n'êtes pas du peuple. Je ne croise pas. Bon, excusez-moi, je suis trop bavard.
Trop bavard, étrange, je vous avais prévenu. J'en arrive dans 5 sur 5 à l'un de vos moments favoris de la journée, je le sais. Le multiplex de la campagne présidentielle, toutes les déclarations des candidats qui nous ont interpellés. Avec, pour commencer, un tout petit retour en arrière, c'était hier matin. Nicolas Dupont-Aignan affirme qu'il a reçu des SMS de menaces venues de soutien de François Fillon qui lui demande de se retirer.
Vous dites que vous avez reçu des SMS de la garde rapprochée de François Fillon pour vous demander de vous retirer. Réponse de la garde rapprochée, c'est faux, c'est pathétique, c'est du pipeau. Alors, vrai ou faux ?
Ben enfin, écoutez, qui vous m'accusez de mentir ?
Je ne sais pas, moi je ne vous accuse pas, c'est eux qui disent c'est du pipeau.
Eh bien, ils verront.
Donc on n'aura pas de nom de ceux qui vous ont envoyé des SMS ce matin.
Vous verrez. Si on m'accuse de mentir, eh bien, ils les auront un jour.
Ils verront. Nicolas Dupont-Aignan refusait hier de dévoiler ses SMS aux journalistes. Rebelote ce matin.
On propose juste de nous donner
les SMS.
Je vous les donnerai le jour venu.
Mais c'est quand le jour venu ?
Peut-être bientôt.
Ah.
Peut-être bientôt, deux minutes plus tard.
Ça dit quoi ? Parce que vous avez dit que c'était ahurissant.
Avant le premier tour ? Avant
ce sont des menaces.
Des menaces.
Des menaces de quoi ?
Corruption ?
Achetées. Achetées.
Par un poste.
Sous forme de poste.
Ministériel.
Mais je ne suis pas à vendre. Et je n'ai répondu qu'un tweet, qu'un SMS. Je ne suis pas à vendre, vous trompez d'adresse. Il y avait même une phrase extraordinaire. Il vaut mieux une soupe bien chaude ou un truc comme ça à du pain rassis.
Et une soupe bien chaude ne fera pas plier Nicolas Dupont-Aignan. Philippe Poutou lui était ce matin sur Europe 1 et on lui a encore parlé chiffon.
Tenu a beaucoup fait jaser lors du débat à 11. Il y avait sans doute, et vous l'avez dit, un peu de racisme social là-dedans. On va pas y revenir. Je vois que ce matin, vous avez mis une chemise.
J'ose plus mettre mon t-shirt à matin.
Soyez vous-même. Si vous êtes élu pour la passation de pouvoir, vous savez ce que vous porterez ou pas encore?
Non, ben là, c'est pas le genre de truc. On verra bien. Peut-être que je ressortirai ce t-shirt là. Mais...
Le t-shirt pour la passation de pouvoir. Gros déploiement de force du FN ce matin sur au moins 3 chaînes, 3 invités, Marine Le Pen, Florian Philippot, Nicolas Bay. Mais les mêmes éléments de langage.
Croyez que je vais passer à 5 jours de la présidentielle quelques minutes à parler des sondages ?
Les variations de plus 1, plus 2, ouais. Moins 1, moins 2.
Il y a une autre variation.
C'est pas ce qu'on va commenter, d'autant plus qu'on est dans la marge derrière.
La baisse de 4 points en un mois, ça vous rend pas heureux, j'imagine.
Ça dépend d'abord des instituts de sondage.
Donc il ne vous fait pas peur, Jean-Luc ?
Non, il ne fait pas peur du
François
tout.
François Fillon,
je crois qu'il fait peur à Benoît Hamon surtout.
Ah, je crois pas du tout qu'il nous prenne des
peurs. Dans les sondages, c'est ce qu'on voit, hein, dans les intentions.
Non, je pense qu'il a bénéficié de la très grande faiblesse de Benoît Hamon.
Marine Le Pen est toujours en tête des intentions de vote.
Et je sais qu'on sera en tête, mais non seulement en tête au soir du premier tour, je pense qu'on sera assez largement en tête en réalité.
Serez-vous qualifié pour le second tour de la présidentielle ?
Oui madame, je serai qualifié, j'arriverai en tête.
Un peu de copier-coller au FN. Je poursuis ce 5 sur 5 car nous n'avons pas suivi que Marine Le Pen et Emmanuel Macron en meeting. Oula. Vous reconnaissez les chaises ?
Ah, je reconnais la petite patte.
Mais quand on est en métro,
la petite patte militante. Ça tombe. Parce que voilà, nous, c'est pas des sociétés qu'on paye, c'est les camarades qui s'y collent.
De l'huile de coude.
Nos équipes étaient avec vous, Nathalie Arthaud, à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, salle Joliot-Curie, avec un petit détour qu'on adore, nous, la boutique.
Qu'est-ce que vous vendez ?
Eh ben, on vend la presse de Lutte Ouvrière, hein. Donc notre journal qui est notre hebdomadaire. On a aussi un mensuel qui s'appelle Lutte de classe. Et puis on a par exemple, aujourd'hui c'est le centenaire de la révolution russe.
Je vois qu'il y a aussi des chants révolutionnaires et contestataires.
Et des chants révolutionnaires. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est faux.
Et pendant que madame chante, vous arrivez. À la cool, un petit salut à tout le monde. L'occasion pour nous de demander à vos militants pourquoi ils vous ont choisi, vous.
Pourquoi voter pour elle ?
Bah justement, parce que c'est un vote de classe, c'est un programme de classe, et c'est ça qu'il faut aujourd'hui.
Ce qui est important pour nous, c'est que, eh ben, on puisse améliorer les choses et puis changer ce système.
Elle représente le fait de ne pas accepter ce système qui est injuste.
C'est d'autant plus important d'affirmer que nous, on veut se battre contre cette société, on a envie de défendre... une autre façon de vivre.
Qu'il faut effectivement être en lutte contre ce système qui nous mène à la perte du genre humain, tout simplement.
La lutte des classes encore et toujours. Là, on croit que votre discours va commencer. Non, tout le monde est prêt, mais non, c'est une manie chez vous. Ils chantent.
C'est la lutte finale qui commence. C'est la revanche de tous les morts de faim. Bandiera rossa deve triomphar. Et viva il comunismo e la libertà. C'est la lutte finale pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain.
Vous le connaissez, le petit jeune qui chante toutes les chansons là ?
Non, je ne le connais pas. Ça me fait chaud au cœur, justement, de voir qu'il y a des jeunes qui sont enthousiastes par cette idée du communisme aujourd'hui. Voilà.
Un meeting, donc, et une rencontre avec les journalistes. Et pour votre plus grand bonheur, Nathalie Arthaud, il n'avait qu'un nom à la bouche. Vous vous souvenez ou pas ?
Les journalistes ?
Oui. Jean-Luc Mélenchon.
Il y a un message de l'extrême gauche qui est entendu
par une partie de l'opinion, c'est pas tellement le vôtre, c'est plutôt celui de Mélenchon. Comment vous l'expliquez ?
Vous voyez, je crois qu'il a voté Jean-Luc Mélenchon dans le deuxième tour.
On vous a posé la question, mais du coup, il est absolument pas question de faire un ralliement avec...
Mais encore les alliances électorales.
Ce serait pas plus simple pour vous d'avancer à plusieurs, notamment avec M. Poutou et M. Mélenchon ?
Et M. Mélenchon, décidément.
Et Arthur qui en rajoute une louche derrière. On sent que ça vous crispe un tout petit peu, mais
non,
ça n'est pas fini.
Tout, pas
ça
tout.
N'est pas fini. Pas c'est un tout. De vos militants qui a une question pour vous. Au deuxième tour. Ben oui. Qu'est-ce qu'il doit faire?
Le deuxième tour, qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que là, vous ne nous avez pas répondu. Qu'est-ce qu'on fait au deuxième tour?
Très bonne question, monsieur.
Non, c'est pas une très bonne question.
Non, mais je ne sais pas quoi faire. La première, je sais ce que j'ai à faire. Je vote pour vous, mais la deuxième.
Dès qu'on regarde deuxième tour en se disant il faut éviter le pire, etc., etc., on se trompe un peu. Parce qu'en fait, on n'évitera pas le pire. Il ne faut pas rester les yeux rivés sur le deuxième tour. Il faut se dire, voilà, au premier tour, on a...
Mais pour le tour, on le connaît tout. On sait qu'on va voter pour vous. Moi, je suis venu pour voter pour... Mais le deuxième,
Concentre-toi là-dessus.
Mais le deuxième, alors je fais impression, je m'abstiens, je fais quoi?
Mais tu sais, la situation politique, le soir du premier tour, franchement, est-ce que tu la connais?
Vous le direz dimanche?
Exactement.
Vous
dimanche.
Le direz dimanche.
Absolument. Parce que j'ai posé la question ce matin à M. Cohen. Lui-même ne la connaît pas, la situation non, c'est vrai, politique.
C'est moi qui vous vous trompez. Non, ce non, matin, en revanche, vous nous avez dit que la situation de 2017 n'était pas celle de 2002, où Lutte ouvrière n'avait pas appelé à voter Chirac.
C'est assez clair. Vous aurez remarqué qu'au niveau du nombre de voix qui se portent sur le Front National, il y a eu une certaine augmentation.
Voilà. Donc ça pourrait faire changer la position de Lutte ouvrière, c'est intéressant.
Merci beaucoup, Nathalie Arthaud.
Les responsabilités des uns ou des autres sont accablantes, d'ailleurs, dans cette montée du Front National.
Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.